Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqarah. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 27 mars 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. La réaction des groupes palestiniens à la résolution du Conseil de sécurité sur Gaza, et c'est le thème de notre commentaire d'aujourd'hui. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, la République islamique d'Iran n'hésitera pas à soutenir Gaza et la Palestine. Déclaration du leader de la Révolution islamique d'Iran, l'honorable Ayatollah Khamenei, à l'occasion d'une rencontre avec Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, en visite mardi à Téhéran. Le Hezbollah riposte en ciblant des casernes israéliennes. Et puis l'Iran et la Russie signent un traité de partenariat stratégique global. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique a déclaré que le meurtre des Gazaouis et le génocide à Gaza touchent chaque humain consciencieux et la République islamique d'Iran n'hésiterait pas à soutenir la cause palestinienne et le peuple opprimé de Gaza. Lors d'une rencontre avec Ismaïl Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, et la délégation qui l'accompagnait, l'honorable Ayatollah Khamenei, a salué la résistance inouïe des combattants palestiniens et du peuple de Gaza, la patience historique des Gazaouis face aux crimes et aux hostilités du régime sioniste, qui bénéficie du plein soutien de l'Occident, est un phénomène immense qui a vraiment fait honneur à l'islam et fait de la question de la Palestine la première question du monde contre le gré de l'ennemi, a-t-il affirmé. L'Ayatollah Khamenei a par ailleurs fait remarquer que le massacre du peuple de Gaza et le génocide dans cette région affectaient chaque humain consciencieux et la République islamique d'Iran n'hésiterait pas à soutenir la cause palestinienne et le peuple opprimé et résistant de Gaza. Il a qualifié d'importante la question du soutien de l'opinion publique internationale ainsi que du monde musulman, en particulier des pays arabes, à la population de Gaza. Les médias proches de la résistance palestinienne ont jusqu'à présent pris des mesures adéquates à l'encontre de l'ennemi sioniste, s'est-il félicité. Il a également rendu hommage à la mémoire du martyr Al-Arouri, un des responsables du Hamas tué par l'armée du régime israélien au Liban. Pour sa part, le leader du Hamas a déclaré « L'opération Tempête d'Al-Aqsa a détruit le mythe d'un Israël invincible et après 6 mois de conflit, l'ennemi sioniste a subi de lourdes pertes humaines. Des milliers de soldats sionistes ont été tués et blessés durant la guerre de Gaza. La guerre dans la bande de Gaza est une guerre mondiale et l'administration américaine est le principal complice des criminels sionistes, d'autant plus que c'est elle qui mène en effet la guerre dans la bande de Gaza, a-t-il conclu. Sachez d'autre part que le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a déclaré qu'Israël connaît un isolement politique sans précédent au lendemain d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. En visite à Téhéran pour rencontrer les autorités iraniennes, Ismaïl Haniyeh a déclaré lors d'une conférence de presse avec le chef de la diplomatie de la République islamique d'Iran que la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée lundi témoignait de l'isolement inouï du régime sioniste et l'impuissance des États-Unis à imposer leurs exigences à la communauté internationale. L'Iran est à l'avant-garde du soutien à la cause palestinienne. Nous traversons une étape historique dans le processus de lutte contre le régime sioniste, dont le point culminant est l'opération Tempête d'Al-Aqsa, a-t-il indiqué. Le chef du bureau politique du Hamas a déclaré qu'Israël perd de plus en plus les soutiens politiques et s'isole même au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a ajouté que les États-Unis, qui sont le plus proche soutien d'Israël, sont incapables d'imposer leur volonté à la communauté internationale. Il a fait ses commentaires lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian le mardi à Téhéran. Il s'agit du deuxième déplacement de Haniyeh en Iran depuis que le Hamas a lancé l'opération Tempête d'Al-Aqsa contre Israël en réponse à des décennies d'atrocités perpétrées par le régime contre les Palestiniens. Un conseiller militaire du CGRI est tué dans des frappes aériennes US en Syrie. Un conseiller militaire du corps des gardiens de la révolution islamique a été tué dans des frappes aériennes nocturnes menées par les avions de guerre américains contre Deir ez-Zor à l'est de la Syrie. Il se nommait Behrouz Vahidia. Il a été tué en martyr lorsqu'un quartier résidentiel de la province de Deir ez-Zor a été bombardé par les chasseurs américains aux premières heures du mardi 26 mars, selon les médias. Israël et les États-Unis ciblent fréquemment les positions militaires en Syrie, en particulier celles des combattants de la résistance qui ont joué un rôle essentiel dans cette lutte antiterroriste. Les attaques américano-britanniques contre les infrastructures civiles et militaires syriennes se sont intensifiées depuis le déclenchement de la guerre d'Israël contre la bande de Gaza assiégée le 7 octobre 2023. Sachez également que le mouvement de résistance libanais Hezbollah a lancé un barrage de roquettes sur une caserne militaire israélienne dans la partie nord des territoires occupés par Israël en 1948, en réponse à la frappe aérienne meurtrière d'Israël contre un centre d'urgence au sud du Liban. La chaîne de télévision libanaise Al-Manar, citant un bref communiqué du Hezbollah, a rapporté que le groupe avait tiré des roquettes mercredi matin visant un centre de commandement de la 769e brigade militaire israélienne dans la caserne de Kiryat Shomona, près de la frontière avec le Liban. Elle intervient en représailles aux frappes de l'armée israélienne contre un centre d'urgence à Habariyé, dans le sud du Liban, qui a causé la mort de 7 membres du personnel médical. Enfin, l'Iran et la Russie signent un traité de partenariat stratégique global en 2024. Kazem Jalali, l'ambassadeur d'Iran à Moscou, a affirmé mardi 26 mars, lors d'une conférence de presse au Centre de presse multimédia international du groupe de médias Racha Segodnia, qu'un traité de partenariat stratégique global pourrait être signé cette année par les deux pays voisins et amis, l'Iran et la Russie. En 2024, espérons-le, ce document sera signé, le plus important, et qu'il soit rédigé, a déclaré Jalali. En février, l'ambassadeur de Russie en Iran avait déclaré que l'élaboration de l'accord était arrivée à sa phase finale. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. La réaction des groupes palestiniens à la résolution du Conseil de sécurité sur Gaza. Les groupes palestiniens ont souligné le respect de leurs conditions, annonçant que la résolution du Conseil de sécurité, préconisant un cessez-le-feu immédiat pendant le ramadan, devrait être mise en œuvre, que les Palestiniens exigeaient un cessez-le-feu global et permanent, et que le Conseil de sécurité devrait faire pression sur le régime sioniste à cette fin. En réponse à l'approbation de la résolution du Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la cessation des hostilités pendant le mois sacré du Ramadan, les groupes palestiniens ont forcé le régime sioniste à souligner son adhésion à la résolution du Conseil de sécurité, appelant à un cessez-le-feu global et permanent. Dans un communiqué, le mouvement de la résistance islamique palestinienne, Hamas, a salué la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Il a souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu permanent qui conduirait au retrait de toutes les forces d'occupation de la bande de Gaza et au retour des réfugiés palestiniens dans leur région. Son mouvement de résistance a ajouté: nous soulignons l'importance de la liberté de mouvement des citoyens palestiniens et de l'entrée de tous les besoins humanitaires dans la bande de Gaza y compris les équipements lourds, pour enlever les décombres et enterrer les martyrs. Nous soulignons qu'ils sont sous les décombres depuis des mois. Le Hamas a en outre demandé au Conseil de sécurité de faire pression sur les occupants sionistes pour qu'ils respectent le cessez-le-feu et mettent fin à la guerre génocidaire contre le peuple palestinien. Le mouvement palestinien a déclaré que nous soulignons le droit du peuple palestinien à établir un État indépendant avec Rots comme capitale, ainsi que le droit au retour et à déterminer le sort des Palestiniens sur la base des résolutions et des lois internationales. Le Hamas a également soutenu les efforts de l'Algérie et d'autres pays qui ont soutenu la Palestine et tenté d'en mettre fin à l'agression des occupants contre Gaza. D'autre part, Ihsan Ataya, membre du bureau politique du djihad islamique, a à son tour souligné la nécessité de mettre en œuvre le cessez-le-feu et annoncé que le texte de la résolution de cessez-le-feu n'a aucune valeur et est symbolique. Il a ajouté que les États-Unis souhaitaient un cessez-le-feu temporaire pour restituer les prisonniers israéliens et que personne ne devrait se laisser tromper par la formulation fantaisiste des résolutions du Conseil de sécurité. Le Front populaire de libération de la Palestine, pour sa part, a salué l'adoption de la résolution de cessez-le-feu immédiat à Gaza et a affirmé que cette résolution devrait être une étape vers une cessation permanente de l'agression, une levée inconditionnelle du siège et le retour de toutes les personnes déplacées dans leur zone et conduire à un accord qui devrait être conclu pour l'échange de prisonniers. Ce groupe palestinien, soulignant la nécessité de forcer l'occupation à mettre en œuvre la dite résolution, a annoncé que l'adoption de cette résolution, malgré tous les efforts visant à l'affaiblir, montre que le monde entier en a assez de la quantité de crimes horribles commis par le régime occupant. Le Front populaire de libération de la Palestine a en outre déclaré que la balle était désormais dans le camp de l'ONU, pour forcer les occupants à adhérer à la résolution en prenant une décision claire concernant la cessation complète et permanente de l'agression. D'autant plus que le régime occupant n'a appliqué aucune résolution au cours de l'histoire. Lundi soir, après plus de 170 jours de guerre à Gaza, 14 des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont approuvé la résolution présentée par les membres non permanents de ce Conseil en faveur de l'établissement d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et l'ont soutenue. Et les États-Unis, en tant que membres permanents de ce Conseil, se sont abstenus. Et la résolution visant à établir un cessez-le-feu à Gaza a donc été approuvée. Avec cette résolution, le Conseil de sécurité a exigé un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le groupe palestinien Hamas à Gaza et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers. Cette résolution appelle les parties belligérantes à remplir leurs obligations en vertu du droit international qui devrait s'appliquer à toutes les personnes détenues. Il s'agit de la quatrième résolution contraignante soumise au Conseil de sécurité de l'ONU pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les réactions à l'attentat terroriste en Russie qui a fait 60 morts et 150 blessés se multiplient à travers le monde. L'Iran, naturellement, a condamné cet attentat, a réitéré son engagement donc dans la lutte contre le terrorisme. Alors, le Kremlin a annoncé d'avoir arrêté 11 personnes, dont 4 directement impliquées dans cet attentat. Dans ce débat d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre les origines de cet attentat avec des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
L'attaque terroriste contre une salle de concert dans la banlieue de Moscou a fait des centaines de morts et de blessés. Le bilan provisoire de cet attentat terroriste s'élève à au moins 133 morts et 145 blessés, a annoncé le comité d'enquête russe. Selon les autorités sanitaires, parmi les personnes blessées, on compte plusieurs enfants. Après les explosions survenues à l'intérieur du centre commercial de la salle de concert de Krasnogorsk, au nord-ouest de Moscou, la capitale de la Russie. Des hommes armés ont ouvert le feu lors d'un concert de rock le vendredi 22 mars, avant qu'un incendie majeur ne se propage dans le théâtre, selon les autorités russes et les agences de presse. Plusieurs brigades de pompiers et des avions ont été dépêchés sur place pour éteindre l'incendie. Les assaillants, vêtus de tenues de camouflage, sont entrés dans le bâtiment, ont ouvert le feu et ont lancé une grenade ou une bombe incendiaire, selon un journaliste de l'agence de presse RIA Novosti, présent sur les lieux. Le président russe Vladimir Poutine a décrété une journée de deuil pour les victimes, déclarant que tous les auteurs de l'attaque terroriste vendredi avaient été retrouvés et arrêtés.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Mme Aïssar Midani, intellectuelle experte franco-syrienne, qui est avec nous depuis Paris. Bonjour, Mme Midani.
Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour à votre invité et à tous les téléspectateurs de Presse TV.
Vous êtes très précieuse, Aïssar Midani, dans l'émission Le Débat. Vos précisions nous aident beaucoup. Un grand bonjour à M. Bernard Cornu, également expert des questions internationales et géopolitologue depuis Vaucluse. M. Cornu, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà.
Madame Aïssar Midani.
Un débat qui s'annonce prometteur donc. Nous parlons bien sûr de la réaction à l'attaque terroriste en Russie qui a fait 60 morts et 150 blessés. Quelque chose d'inimaginable donc à cette époque en Russie. Et ma première question va s'adresser à Aïssar Midani. Alors, comment vous évaluez donc cet attentat terroriste à cette époque?
D'abord, je voudrais présenter toutes mes condoléances à toutes les familles des victimes, mais surtout au peuple russe, amis. En fait, pour cet attentat, présenter toute ma solidarité avec tout le monde. Et en fait, pour dire aussi, c'est quelque chose que nous connaissons bien, en Syrie, les attentats terroristes nous ont, ont pointillé notre existence depuis 2012, le début de cette guerre contre la Syrie. Je pense qu'en Iran aussi et en Irak, on sait tous quand même comment sont ces attentats terroristes qui sont organisés. En fait, moi je trouve que c'est l'empreinte américaine, elle est très présente, américano-sioniste très présente dans cet attentat. D'abord, il faut dire quand même qu'il y a eu des déclarations comme quoi c'était Daesh. D'un autre côté, n'oublions pas que le 7 mars, il y a eu une déclaration de l'ambassade américaine, une lettre adressée à tous les ressortissants américains en Russie en disant qu'il y aurait peut-être des attentats terroristes et donc les conseiller de se tenir loin de tout rassemblement pour garder leur sécurité, pour être en sécurité. Donc en fait, pour moi, ceci ajouté à l'attitude américaine vis-à-vis des élections du président Poutine. Mais je pense que cet attentat, il a été préparé bien avant. Mais en fait, c'est le timing de déclenchement, il était là, en fait. Donc, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, disons-le. Et contrairement à toutes les déclarations, que c'est quelque chose qui pourrait être comme ça, improvisé. Donc, bien préparé, un attentat bien préparé.
D'accord.
L'objectif, c'est aussi montrer au peuple russe qui a élu le président Poutine à un score qui est très très important quand même et très fort, qui a dépassé aussi 78%, voire même 97% dans les provinces qui ont rejoint récemment la Russie, la Fédération russe, donc le Donbass, la Crimée et Lugansk. C'est un acte, c'est un message politique pour dire nous sommes là et puis nous sommes prêts à créer
Malheureusement, notre liaison avec Aïssar Midané est coupée. Mes collègues vont essayer.
Oui. La Fédération russe, bien qu'elle se croie à l'abri.
Absolument. Merci, Madame Midani. Monsieur Bernard Cornu, l'empreinte américaine, c'est ce que pense Aïssar Midani dans ses propos. Est-ce que vous êtes d'accord?
Madame Midani a en tout cas évoqué les notes internes diffusées par l'ambassade américaine à ses ressortissants pour éviter des rassemblements. Cette note à partir du 7 mars, donc à l'approche des élections russes. Et on a su aussi que les Américains ont dit eux-mêmes qu'ils avaient prévenu la Russie d'un risque d'attentat. Il y a effectivement une coopération internationale sur les risques de terrorisme, mais on n'en connaît pas les détails. Et si les Américains ou n'importe quel pays ne transmettent pas tous les détails d'une information, d'où elle vient, de quelle date, et qu'est-ce qu'ils ont comme complément, est-ce qu'ils savent qui finance, qui organise, cette coopération, elle est hypocrite. Parce qu'il faudrait, elle ne serait juste que si elle était complète, sans aucune restriction, en toute transparence. Et hélas, tant qu'il y a des services secrets dans le monde, et de très loin, les Américains ont le plus gros budget pour leurs services de renseignement, près de 600 milliards par an. Ils peuvent effectivement presque tout savoir, presque tout contrôler, les flux financiers, les messages téléphoniques, Internet et tout ça. Et ceci est très dangereux parce qu'ils peuvent à la fois donner des renseignements, mais ils peuvent aussi manipuler, transférer des fonds sans que ça soit observé et manipuler les personnes, comme ils avaient commencé à le faire dès l'été 1979. J'ai souvent rappelé ceci en Afghanistan. À l'époque, il y avait un gouvernement de gauche avec des sympathisants communistes. Et à l'époque, le Zbigniew Brzezinski, qui était conseiller à la sécurité nationale du président Carter, qui était un ancien cultivateur, producteur de cacahuètes, et qui n'avait pas l'expérience internationale encore qu'avaient ses conseillers à la sécurité nationale, qui était lui-même d'origine polonaise, qui connaissait bien l'histoire donc, de cette région d'Asie centrale et de la Russie, enfin de l'Empire soviétique, tout ça, il a décidé, conseiller Carter, collaborer avec l'Arabie saoudite pour envoyer des mercenaires lourdement armés en Afghanistan pour commencer des attentats, des escarmouches contre le pouvoir et l'armée afghane. Ce qui, au bout de quelques mois, à Noël 79, a décidé l'armée soviétique à entrer en Afghanistan, où elle s'est enlisée dans ce pays de montagne où effectivement il est difficile de contrôler. Après les Britanniques, ce sont les Russes, les Soviétiques, et depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, les Britanniques et les Américains qui en ont fait les frais. Donc il faut remonter à cette histoire du financement de mercenaires djihadistes armés, lourdement armés, et aussi tout ceci a développé dans cette région aussi des commerces, des contrebandes de drogue et d'armes, qui fait qu'il y a aujourd'hui de nombreuses mafias, comme je l'ai dénoncé aussi au Sahel, qui vivent de ces contrebandes de drogue, d'armes et de personnes, de migrants, et qui sont difficiles à contrôler, mais qui sont aussi faciles à manipuler avec de l'argent.
Oui.
Pour commettre de tels attentats.
Absolument. Aïssar Midani, M. Bernard Cornu a évoqué des propos très intéressants concernant les origines de cet attentat. Est-ce que vous êtes d'accord?
Je suis d'accord en partie seulement, parce que je pense quand même que toutes ces hordes terroristes, elles obéissent quand même aux ordres américains et ne font des attentats que lorsqu'ils ont l'ordre de le faire, et quand ils sont aussi alimentés par des armes toutes récentes et souvent les armes les plus modernes auxquelles la recherche scientifique a dû arriver en fait dans ces pays occidentaux qui sont autour des États-Unis, donc les pays de l'OTAN et les États-Unis, mais qui obéissent effectivement aux ordres américains et américano-sionistes, disons-le. Donc ça, c'est et même s'il y a des mafias de contrebande, etc., ils ne décideront pas de faire une attaque comme ça sans des ordres qui viennent de l'empire, je dirais, de l'empire des voyous américains. Voilà.
Aïssa Hamidani, selon beaucoup d'experts politiques, cet attentat a été un prétexte pour détourner l'opinion publique des actes barbares qui s'effectuent dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on peut donner un rapport entre cet attentat et les crimes commis par le régime israélien dans la bande de Gaza?
Je crois que de toute façon, Gaza et l'Ukraine sont tout à fait réunis. En fait, c'est deux aspects d'un même conflit qui est en fait entre les États-Unis et la Russie, entre les pays qui soutiennent peut-être les peuples et des pays qui veulent absolument imposer leur diktat, hein, ça c'est le résultat, je dirais, mais la guerre en Ukraine a été aussi alimentée par les Américains, elle a été soutenue par les Israéliens. Rappelons quand même qu'il y a des mercenaires israéliens qui sont partis combattre en Ukraine et que de toute façon, il y a aussi des mercenaires de tous les pays du monde qui viennent en Israël et qui aussi mènent la guerre pour déraciner le peuple palestinien de sa terre et actuellement l'horreur contre le peuple, les Palestiniens à Gaza, parce qu'ils ont osé braver le diktat américain, ils ont osé faire mal à son valet sioniste, ils ont osé se battre aussi pour leur liberté, pour leur indépendance, et ce depuis plus de 20 ans. Comme tous les Palestiniens se battent quand même depuis un siècle, il faut le dire, pour leur indépendance, et en fait, ces Américains soutenus par les Israéliens soutenus par les Américains et par tous les pays de l'OTAN ne font que mater, tuer, arrêter, torturer, créer l'horreur quotidienne pour pousser les Palestiniens à partir. Ça a commencé par des exodes en 1936, ça continue. Malheureusement, l'ONU a couvert tous ces crimes. Et je voudrais quand même rappeler qu'hier, il y a eu une grande séance à l'ONU où l'Israélien a traité les Palestiniens d'animaux, encore devant, au vu et au-dessus des représentants du monde entier, et qui a été aussi, semé de sortir. Mais en fait, tous les pays, tous les pays présents, ils ont fait une motion, en fait, qui impose effectivement qu'ils sortent de la salle, mais aussi qui voudrait imposer un cessez-le-feu immédiat à Gaza et le retrait immédiat aussi d'Israël de toute la région et l'indépendance aussi de la Palestine. Ils ont réussi à faire 206 voix alors qu'il en fallait 216, et c'était tous les pays occidentaux et tous les valets de ces pays occidentaux, malheureusement, qui sont sous influence américaine, qui ont voté contre. Donc la motion n'est pas passée. Et en fait, là, on voit que ce n'est pas une petite affaire et qu'aujourd'hui, le monde est divisé autour de la question de Gaza, effectivement, et autour de la question même de la Palestine, entre les pays colonialistes et impérialistes qui soutiennent Israël et tous les autres pays qui se battent contre l'hégémonisme et qui soutiennent les Palestiniens. Donc vraiment, là, c'est effectivement un conflit international, c'est international, et puis les suites vont changer le monde, et ça change.
Bernard Cornu, est-ce qu'il serait juste d'aller chercher plus loin les origines de cet attentat, en pensant justement des gens qui donc essaient de détourner l'opinion publique mondiale en commettant cet attentat?
Oui, pour en revenir à cet attentat, il faut aussi rappeler que au moins deux des participants arrêtés de cet attentat sont de nationalité du Tadjikistan, des Tadjiks. Le Tadjik est un petit pays au nord de l'Afghanistan dans lequel les Américains, quand ils ont voulu combattre contre l'Afghanistan, l'État islamique, enfin, le Daesh à l'époque, plutôt Al-Qaïda à l'époque, ils ont signé des accords pour établir une base importante au Tadjikistan. Donc toute cette présence d'une base américaine, de conseillers américains, fait qu'il y a eu certainement des Tadjiks qui ont été recrutés comme traducteurs, comme guides, comme informateurs, et que toute cette présence d'une armée américaine dans des pays comme ça qui sont relativement pauvres crée des perturbations socio-économiques très fortes. Et il ne faut pas s'étonner que s'y développent aussi des mercenariats, des mafias qui sont facilement manipulables. Moi-même, je ne dirais pas que les États-Unis décident, contrôlent, donnent l'ordre, mais ils manipulent. Et après, vous savez, on peut donner de l'argent sans savoir d'où vient l'argent, on peut donner des ordres sans savoir d'où ça vient. Et des gens dans des pays où qui sont pauvres, où les gens n'ont souvent pas beaucoup de ressources, il est facile de trouver des volontaires pour mener des attentats en ayant la promesse d'avoir un exil quelque part, d'avoir de l'argent quelque part. Et en fait, ils se condamnent eux-mêmes soit à la mort, soit à la prison. Et donc, ils ne seront sans doute pas capables de donner toutes les traces de ce qui les a manipulés.
Bernard Cornu, tout de même, Aïssa Hamidani reste campé dans ses positions concernant les États-Unis, oui, qui sont donc derrière cet attentat. Monsieur Bernard Cornu ?
Oui, moi, j'appelle ça de la manipulation plus que du contrôle, parce que c'est difficile de... Tant qu'il n'y a pas de transparence sur les services secrets, il est difficile de remonter aux origines des gens qui décident en ces matières-là pour manipuler des gens pour commettre des attentats sur certains objectifs, à certaines dates, avec certaines armes. Les choses sont très complexes.
Absolument. Aïssa Hamidani,
bon, permettez-moi de dire même...
Allez-y, je vous prie.
Oui, permettez-moi de m'inscrire en faux par rapport à ces propos, parce qu'on sait quand même que tous ces terroristes Daesh ont été créés par les États-Unis, par la bouche même de Hillary Clinton, qui l'a dit, et ça a été confirmé. Ils ont été créés pour commettre des attentats. La base Al-Tanf en Syrie est une base aussi de recrutement et d'entraînement de tout un tas de mercenaires et qui, de temps en temps, sont lâchés contre l'armée syrienne. On ne fait pas automatiquement, même si on touche de l'argent et on a des armes, contre des civils, contre une soirée où il y a des femmes, des enfants, etc. On ne fait pas d'attentats contre les enfants qui sortent de l'école et comme ça, spontanément, parce qu'il y a conflit entre les uns et les autres pour de l'argent. Ça ne peut être fait que sur ordre. Et même pas seulement, ils sont sommés d'exécuter, et en fait, après, ils les exécutent de toute manière.
Bernard Cornu, votre réaction,
je vous prie. C'est les Américains qui avaient commencé ce processus en Afghanistan en 79, hein, et qu'ils mettent beaucoup d'argent pour tout cela.
Oui, tout de même. Aïssa Hamidani, votre réaction, je vous prie.
Ben, moi, je pense effectivement, ils mettent beaucoup d'argent, mais l'argent est donné sur opération accomplie et mission accomplie. C'est pour ça d'ailleurs, la plupart du temps, ils se filment en train de faire les choses, et ça on l'a vu aussi souvent longtemps en Syrie et en Irak, comment ils se filmaient, ils filmaient les autres, les opérations qu'ils faisaient pour pouvoir toucher l'argent qui vient après pour mission accomplie. Donc franchement, ce sont des gens qui obtempèrent à des ordres précis et des services américains, sionistes et autres, en fait. Hein. Donc ça peut être aussi d'autres pays, mais toujours dans la même stratégie américaine de destruction, de déstabilisation et de, comment dire, et vraiment de renforcement de son pouvoir, du pouvoir américain dans des pays qui lèvent la tête et qui rejettent et qui refusent d'obtempérer devant le diktat américain. Je voudrais quand même rappeler que la Syrie est jusqu'à présent sous blocus et que de temps en temps, il y a des bombardements israéliens aussi sur la Syrie. Il y a aussi des réveils de Daesh de temps en temps, alors que l'on était arrivé à la fin de Daesh, aussi éradiqué. Aujourd'hui même, en Irak, l'ambassadrice américaine qui dit « Ah ben de toute façon, on veut bien sortir ». Mais notre mission de combattre Daesh n'est pas finie. Et comme par hasard, il réveille Daesh aussi dans tous les coins et les recoins de l'Irak. Alors que, effectivement, la résistance irakienne, elle dit qu'il faut, et on le dit depuis d'ailleurs, l'attentat, le vil assassinat du général Qassem Soleimani, rahimahullah. Effectivement, depuis ce moment-là, le Parlement irakien et l'État irakien avaient décidé que, de toute façon, il faut que les États-Unis sortent de la région, non pas seulement de l'Irak, mais par rapport à l'Irak, qu'ils devaient sortir de l'Irak. À l'époque, les Américains ont dit « oui, on est en train de discuter un calendrier, etc. » Ils essayent de gagner du temps dans ces discussions, dans ces négociations. Et la réalité fait qu'ils ont à nouveau réveillé, réanimé Daesh, ils ont fait pression sur leurs alliés dans le Kurdistan irakien, ils ont fait pression pour dire « Ah ben non, on a encore besoin de Daesh, on a besoin encore des troupes américaines pour combattre Daesh ». Or les Américains, ils n'ont jamais combattu Daesh, c'est eux qui l'ont créé, c'est eux qui les dirigent, c'est eux qui les alimentent. Et à chaque fois que l'armée syrienne ou les résistants, etc., essayent d'arriver à la fin de Daesh, ils sont bombardés par les Apaches américains et pendant des heures pour que Daesh continue à vivre et continue à prospérer.
Absolument.
C'est vraiment le point de leur présence, en fait. C'est le prétexte de leur présence et il faut le voir comme ça. Et ce sont eux qui animent et qui aujourd'hui ont envahi tout un tas de pays par mercenaires et terroristes interposés. Voilà. Et ils viennent sous prétexte de les combattre.
Absolument. Aïssa Armidani, analyste des questions internationales, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci à M. Bernard Cornu d'avoir apporté des précisions à cette émission. Ici, prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Le leader de la révolution islamique a déclaré que le meurtre des Gazaouis et le génocide à Gaza touchent chaque humain consciencieux. Et la République islamique d'Iran n'hésiterait pas à soutenir la cause palestinienne et le peuple opprimé de Gaza. Lors d'une rencontre avec Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas et la délégation qui l'accompagnait, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei a salué la résistance inouïe des combattants palestiniens et du peuple de Gaza. La patience historique des Gazavis face aux crimes et aux hostilités du régime sioniste qui bénéficie du plein soutien de l'Occident est un phénomène immense qui a vraiment fait honneur à l'islam et a fait de la question de la Palestine la première question du monde contre le gré de l'ennemi israélien, a-t-il affirmé. Il a qualifié d'importante la question du soutien de l'opinion publique internationale ainsi que du monde musulman, en particulier des pays arabes, à la population de Gaza. Les médias proches de la résistance palestinienne ont jusqu'à présent pris des mesures adéquates à l'encontre de l'ennemi sioniste. Il a également rendu hommage à la mémoire du martyr Al-Arouri, un des responsables du Hamas, tué par l'armée du régime israélien au Liban. Ce noble martyr était une personnalité exceptionnelle, dont le martyr était la récompense que Dieu lui avait destinée pour ses combats justes, a souligné l'Ayatollah Khamenei. Pour sa part, le chef du bureau politique du Hamas a exprimé sa gratitude envers le soutien apporté par le peuple et le gouvernement iranien à la cause palestinienne, et en particulier au peuple de Gaza. Il a présenté un rapport sur les derniers développements de la guerre dans la bande de Gaza. La patience et l'endurance exemplaires du peuple de Gaza, ainsi que des combattants des groupes de résistance pendant ces 6 mois, dus à leur foi inébranlable, ont empêché l'ennemi sioniste d'atteindre ses objectifs stratégiques, a-t-il dit. Le chef du Hamas a poursuivi. L'opération Tempête d'Al-Aqsa a détruit le mythe d'un Israël invincible. Et après 6 mois de conflit, l'ennemi sioniste a subi de lourdes pertes humaines. Des milliers de soldats sionistes ont été tués et blessés durant la guerre de Gaza. La guerre dans la bande de Gaza est une guerre mondiale. Et l'administration américaine est le principal complice des criminels sionistes, d'autant plus que c'est elle qui mène en effet la guerre dans la bande de Gaza. Ismaïl Haniya s'est finalement adressé aux leaders de la révolution islamique en ces termes. Je vous assure que malgré toutes les violences, les exactions et la guerre génocidaire qui se déroule à Gaza, la population de Gaza et les combattants de la résistance resteront forts face à l'ennemi sioniste et ne lui permettront jamais d'atteindre ses desseins. En visite à Téhéran pour rencontrer les autorités iraniennes, Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, a déclaré lors d'une conférence presse avec le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, que la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée lundi témoignait de l'isolement sans précédent du régime sioniste et l'incapacité des États-Unis à imposer leurs exigences à la communauté internationale. L'Iran est à l'avant-garde de soutien à la cause palestinienne. Nous traversons une étape historique dans le processus de lutte contre le régime sioniste, dont le point culminant est l'opération Tempête d'Al-Aqsa, a-t-il dit. Aux yeux du monde entier, le peuple palestinien a illustré une résistance légendaire. La résistance qui montre le succès de notre peuple dans la lutte contre les exactions et le génocide commis par les sionistes, indiqué le responsable du mouvement de résistance palestinien, Hamas. J'adresse mes remerciements particuliers aux leaders de la révolution islamique d'Iran, au président de la République et au peuple iranien. On approche de la journée mondiale de Rots, et cela revêt une importance toute particulière dans un moment où l'opération Tempête d'Al-Aqsa se poursuit. On espère que l'Oumma musulmane affichera une présence forte et courageuse dans les défilés de la journée mondiale de Rots. Après plus de 5 mois de conflits et des dizaines de milliers de morts, le Conseil de sécurité des Nations Unies a enfin adopté ce lundi 25 mars une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Un appel qui avait auparavant été bloqué à plusieurs reprises par les États-Unis, qui se sont cette fois abstenus. La résolution, adoptée sous les applaudissements par 14 voix pour et donc une abstention, exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du Ramadan, devant mener un cessez-le-feu durable. Elle exige en outre la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et la levée de tous les obstacles à l'arrivée de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Ce texte est le fruit du travail des membres non permanents du Conseil de sécurité qui ont négocié tout le week-end avec les États-Unis pour tenter d'éviter un nouveau blocage de la part de Washington, grand allié d'Israël, ont rapporté des sources diplomatiques. Les États-Unis s'étaient en effet jusqu'alors systématiquement opposés au terme « cessez-le-feu » dans les résolutions de l'ONU, bloquant trois textes en ce sens. Washington avait menacé de rejeter cette résolution si le texte n'était pas modifié et si le terme « cessez-le-feu permanent » n'était pas remplacé par « cessez-le-feu ». L'ambassadrice et représentante permanente des États-Unis, Linda Thomas Greenfield, a déclaré lors de l'adoption de cette résolution que le Hamas est une organisation terroriste qui entend détruire Israël. Mais cette question n'est pas condamnée dans le texte de la résolution. Elle a ajouté que Washington, n'étant pas d'accord avec toutes les dispositions de cette résolution, n'avait pas voté pour. Le Croissant Rouge palestinien a fait état dimanche 24 mars de deux nouveaux hôpitaux assiégés par l'armée israélienne dans le sud de Gaza. La Société du Croissant Rouge palestinien avertit que deux hôpitaux de la ville de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, demeurent en danger, étant toujours assiégés par les forces israéliennes. Depuis le début de la guerre à Gaza, en octobre 2023, le régime sioniste a attaqué à plusieurs reprises des centres médicaux et les forces militaires de ce régime sont entrées dans les hôpitaux sous prétexte que les forces du Hamas opèrent depuis l'intérieur de ces centres. Le Croissant Rouge a ajouté dimanche sur les réseaux sociaux que les véhicules de l'occupation israélienne assiègent deux autres hôpitaux, Al-Amal et Nasser, avec des bombardements intenses et des tirs nourris. Toutes nos équipes sont actuellement en danger extrême et sont complètement immobilisées, a-t-il écrit. Le Croissant Rouge palestinien a déclaré qu'un membre de son personnel avait été tué lorsque des chars israéliens se sont déployés dans les zones entourant les hôpitaux Al-Amal et Nasser. L'armée israélienne a bloqué tous les accès à l'hôpital Al-Amal et mené de vastes opérations de terrassement dans ses environs, a déclaré le Croissant Rouge dans un communiqué, précisant que ses équipes avaient été prises sous le feu. L'armée israélienne, réagissant aux déclarations du Croissant Rouge palestinien, a affirmé que ses forces opèrent dans la région d'Al-Amal et qu'elle n'avait entrepris pour le moment aucune action dans les hôpitaux. Les forces du régime sioniste ont lancé lundi dernier une opération majeure contre l'hôpital Al-Shifa, qui se poursuit toujours. Israël prétend cibler les forces du Hamas dans et autour de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand hôpital de Gaza. Selon certaines informations, au sixième jour de l'attaque contre l'hôpital Al-Shifa, l'armée israélienne a incendié des secteurs vitaux et importants de cet hôpital. Elle a également reconnu l'exécution de moins 170 Palestiniens et la capture de 800 personnes dans son centre médical durant cette période. Le directeur général des communications à Gaza a également confirmé que les occupants avaient tué plus de 100 personnes à l'intérieur de l'hôpital Al-Shifa, exécutant même certains membres du personnel médical, qualifiant la situation à l'hôpital Al-Shifa de catastrophique. Il a ajouté que 4 autres patients étaient décédés faute d'accès aux soins médicaux à cause des restrictions imposées par l'armée du régime sioniste. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.